Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radawi, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire autour du diabète. Je rappelle que je suis le docteur Radawi de l'équipe du service d'endocrinologie de l'hôpital de Perpignan. Donc comme vous le savez, depuis maintenant déjà 2 ans, nous avons organisé ces émissions, ces e-live sur notre page Facebook Diabète 66 pour répondre à vos questions et échanger autour du diabète. Aujourd'hui, pas de thématique particulière. Nous avons choisi de laisser libre cours à toutes vos questions pour une durée d'une demi-heure. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je rappelle une fois de plus qu'il ne s'agit pas de consultation, mais essayez d'être le plus large possible pour que les réponses puissent être utiles au plus grand nombre. Donc en attendant vos questions, je tiens à revenir sur le concours d'innovation. Comme vous avez pu le voir, nous avons publié plusieurs événements ces dernières semaines concernant concours d'innovation auquel nous avons participé. Je tenais à vous remercier chaleureusement de votre participation au vote qui nous a permis d'être finalistes parmi les projets qui ont été présentés, les 10 finalistes, mais ce n'est pas fini, le plus gros est à venir puisque la finale des 10 meilleurs projets sélectionnés va débuter le 8 novembre. Donc nous comptons sur vous pour voter massivement, puisque c'est la partie la plus importante du concours. Ce concours nous permettra de développer notre projet D-Live, nos émissions, notre site, qui va s'intégrer dans le parcours de soins et l'éducation thérapeutique du patient diabétique, et qui va nous donner une reconnaissance nationale dans ce contexte. Donc on compte sur vous, n'hésitez pas à voter. À partir du 8 novembre, le lien sera affiché sur la page Facebook et nous vous expliquerons toute la procédure pour nous soutenir un maximum et nous permettre de réussir ce concours. Alors maintenant je vais passer aux questions en direct. Je vais répondre aux questions qui ont été également posées à l'annonce de cette e-live au préalable durant la semaine. Vous savez qu'on a pour habitude d'annoncer la thématique durant la semaine pour vous permettre d'orienter vos questions. Donc nous avons eu des questions, notamment de Hamid, qui nous demande pourquoi certains diabétiques de type 2 sont-ils traités par insuline et quelle différence dans ce cas-là existe-t-il entre le diabétique de type 1 et le diabétique de type 2. Donc effectivement, comme vous le savez, le diabète de type 2 est une maladie évolutive, héréditaire, qui apparaît chez les patients plutôt âgés de plus de 40 ans. Et initialement, on va plutôt privilégier les antidiabétiques oraux. Mais malheureusement, parfois, selon la sévérité du diabète et selon les familles, le diabète peut évoluer rapidement et atteindre le fameux stade d'insulinopénie. Donc au début, on traite l'insulinorésistance avec les cachets, donc les comprimés, comme vous savez, la metformine en première intention, puis tout un autre panel à rajouter par ailleurs au fur et à mesure de la maladie et si besoin. Mais malheureusement, ces antidiabétiques oraux et leur association parfois ne permet pas d'équilibrer le diabète. Donc nous sommes amenés à rajouter de l'insuline selon des schémas qu'on appelle mixtes, c'est-à-dire associés à des antidiabétiques oraux, puis on intensifie l'insulinothérapie selon les besoins du patient. Pour autant, le patient reste étiqueté diabétique de type 2. En fait, c'est juste une évolution de la maladie. La maladie va évoluer plus ou moins vite, comme je vous disais, selon la maladie, selon vos efforts aussi, et selon le poids. Les diabétiques de type 1, à contrario, eux sont... en fait, ce n'est pas du tout la même physiopathologie, puisque c'est une maladie auto-immune avec une destruction de la fabrication de l'insuline par les îlots Langerhans. Et donc, il nécessite, dès la découverte, dès le début de la maladie, une insulinothérapie selon un schéma basal bolus ou un traitement par pompe à insuline par exemple qui permet également de se substituer à ce schéma et de traiter le diabète. Donc la différence entre le diabète de type 1 et type 2, c'est la physiopathologie de la maladie. Il ne s'agit pas du tout de la même maladie et du coup les traitements vont différer. Donc un type 2 ne devient jamais un type 1. Il peut en revanche nécessiter de l'insuline et atteindre ce stade qu'on appelle insulinopénie. Nous avons eu également une question qui est récurrente, hein, que j'ai choisi justement parce qu'on a souvent cette confusion. Smaïl nous demande, est-ce que le glucophage détruit le rein ? Alors, je profite de cette question pour justement combattre cette fausse croyance, puisque le glucophage, donc qui est la metformine, est un excellent antidiabétique oral. Il reste en première intention dans la plupart des cas, pour le diabétique de type 2 bien sûr, mais en cas d'insuffisance rénale, donc si le rein est abîmé, que ce soit par le diabète ou par d'autres causes, hein, des causes vasculaires, l'hypertension, il est important de diminuer sa dose ou de l'arrêter en cas d'insuffisance rénale avancée, car la metformine à ce moment-là est mal éliminée et peut provoquer une acidose lactique. Donc ce n'est pas la metformine qui provoque l'insuffisance rénale. En revanche, l'insuffisance rénale ne filtrant pas bien la metformine, il est important de l'arrêter. Donc c'est important de ne pas faire la confusion. La metformine n'est pas la cause de l'insuffisance rénale, mais il est important de l'adapter en cas d'insuffisance rénale. On a aussi une question de fréquente qui revient souvent aussi de Rama qui se plaint de neuropathie diabétique. Quels sont les conseils que vous donnez pour souffrir le moins possible de ces douleurs périphériques des membres inférieurs ? Alors le premier conseil, alors les études ont montré que la meilleure façon de diminuer ces douleurs, c'est avant tout d'équilibrer votre diabète. Donc l'hyperglycémie, on sait qu'elle va aggraver cette neuropathie, l'atteinte des nerfs, hein, des membres inférieurs. Il va donc être important de bien équilibrer le diabète. Si en revanche cela ne suffit pas, on va pouvoir ajouter des traitements qui s'adressent à ces patients justement pour ces douleurs, des traitements anti-épileptiques, mais qui vont avoir une action sur cette douleur, telle que le Lyrica ou le Cymbalta, qui est lui un antidépresseur et qu'on va ajuster selon la douleur et la tolérance du patient. Voilà pour Rama. Je vais passer maintenant aux questions en direct. Jo qui revient aussi sur la metformine, est-ce toujours la même molécule ? Alors, la molécule est la metformine. Maintenant, selon le laboratoire qui la commercialise, elle peut avoir un autre nom qui est le glucophage. On a aussi le stagide qui est également de la metformine, mais à faible dose, c'est-à-dire qu'à 250 mg. Donc, ça reste la metformine. Pour autant, ça n'a pas changé. Alors, Anès qui nous pose la question pour un diabétique de type 1, comment faire pour bien l'équilibrer malgré des doses d'insuline élevées ? Donc, c'est une excellente question dans le sens où nous sommes confrontés de plus en plus à des patients diabétiques de type 1 qui présentent également un surpoids ou une obésité et qui finalement vont poser des problèmes d'insulinorésistance qui ressemblent au type 2. Donc, on est amené à mettre des fortes doses d'insuline et pour autant, on a du mal à équilibrer ces patients. Donc, le premier conseil à donner à ces patients, c'est effectivement d'avoir des règles hygiéno-diététiques le plus adaptées possible et de favoriser la perte de poids parce que très souvent, cette insulinorésistance est aggravée ou provoquée par l'excès pondéral. Donc, première chose à faire, c'est de jouer le jeu au niveau du régime le plus possible et de perdre du poids. On peut également proposer des pompes à insuline chez des patients diabétiques de type 1 qui ont cette insulinorésistance. On sait que la pompe permet une meilleure sensibilité à l'insuline et ça nous permet en général de diminuer les doses et mieux équilibrer les patients. Donc ça, c'est une deuxième solution. Troisième solution, alors... Excusez-moi. Pour l'instant, il existe des molécules qui nous permettent de lutter contre l'insulinorésistance, qui sont réservées plutôt aux diabétiques de type 2, mais dans ces cas de figure, il nous arrive de les prescrire alors hors AMM pour les diabétiques de type 1, que ce soit la metformine ou les analogues GLP-1 qui vont nous permettre de diminuer cette insulinorésistance et notamment pour les analogues GLP-1 nous permettre une perte pondérale intéressante qui permet parfois d'équilibrer le diabète et de diminuer la dose d'insuline également chez le diabétique de type 1. Donc on est hors AMM, il faut être prudent sur leur utilisation, mais leur effet dans ces cas-là peut vraiment apporter quelque chose de plus pour ces patients. Alors une question qui revient souvent, Anthony, qui nous dit qu'il est diabétique de type 1, puisqu'il me parle d'un diabète génétique. Alors, je suppose que c'est le diabète de type 1. Je suis le seul de ma famille à l'avoir, comme très souvent dans le diabète de type 1, puisque c'est une maladie auto-immune non héréditaire. Mes proches peuvent-ils développer cette maladie ? Alors non, comme je vous le dis, le diabète de type 1, en effet, n'est pas une maladie héréditaire, c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est des anticorps habituellement présents pour nous défendre contre les infections et les virus qui... pour des raisons qu'on ignore, probablement environnementales et une prédisposition génétique, vont se retourner contre un organe et là ils décident de détruire la fonction de fabrication d'insuline, donc du pancréas, donc il n'est plus du tout fonctionnel. Et c'est comme ça qu'on devient diabétique de type 1, donc on nécessite à ce moment-là de mettre en place un traitement par insuline. Donc étant donné ces circonstances, le diabète de type 1 en principe est une maladie sporadique, c'est-à-dire qu'elle ne va non héréditaire, elle ne va pas toucher les autres membres de famille, il n'y a pas de risque de transmission aux enfants non plus, mais il arrive parfois de... Alors c'est assez rare, mais on a des familles ont à avoir plusieurs diabètes de type 1 dans des fratries notamment. Donc ce sont des maladies où l'auto-immunité, les maladies auto-immunes sont très présentes, où une prédisposition va être plus importante. Donc on suppose qu'il existe probablement une part génétique dans ces familles avec une prédisposition aux maladies auto-immunes. Voilà Anthony, mais a priori pas de risque de transmission. Alors, Charles nous pose la question, qu'est-ce qui caractérise le pied diabétique ? Alors, effectivement, le pied diabétique est une entité particulière, à part, puisqu'il y a plusieurs phénomènes qui vont être intriqués dans les dans le fait que le pied soit exposé à d'éventuelles déformations ou qui aboutissent à des plaies et le fameux mal perforant plantaire. Ces phénomènes vont inclure des phénomènes artériels, ça va également toucher les nerfs, hein, cette fameuse neuropathie périphérique. Les phénomènes artériels, bon, vous connaissez l'incidence et les risques d'artériopathie chez le patient diabétique, donc le fait que les artères soient touchées vont également participer à la physiopathologie du pied diabétique. Et localement, on va également avoir des phénomènes vasomoteurs, c'est-à-dire une augmentation de la vascularisation, de l'œdème, de l'inflammation, qui peuvent aboutir à des microfractures et des reconstructions et déformer totalement le pied. On a souvent, dans des maladies évolutives du pied diabétique, on va avoir des formes cubiques de pied, c'est ce qu'on appelle le pied de Charcot, avec des poussées inflammatoires. Donc c'est très caractéristique du pied diabétique dans des formes assez évoluées, je vous rassure, hein, ça ne concerne pas tous les patients diabétiques. Ça, c'est la forme la plus évoluée. Donc le fait qu'il y ait cette déformation, avant d'arriver au pied de Charcot, on peut également avoir des déformations au niveau des orteils, avec des points qui vont créer des points d'appui anormaux. Et donc ils vont exposer le pied, le patient à des plaies du fait de ces appuis anormaux, de frottement contre la chaussure notamment. Et on va être particulièrement prudent sur le plan podologique pour mettre en place des semelles thermoformées ou avec des chaussures sur mesure pour justement pallier à ces appuis et éviter la survenue des plaies. Donc on va prendre en compte plusieurs choses chez le patient présentant un pied diabétique, on va dire, à risque. On va prendre en compte donc l'aspect artériel, on va être prudent à ce qu'il n'existe pas d'artériopathie ou la traiter si besoin. On va effectivement faire attention à la neuropathie et la déformation qu'elle occasionne et aux soins de pédicurie. Donc il est important que le patient diabétique, avec ses facteurs de risque, ait des soins réguliers pour éviter de se blesser. On va également compenser les déformations avec des chaussages adaptés et des semelles thermoformées. Et enfin, bien évidemment, l'équilibre glycémique va être important pour freiner l'ensemble des phénomènes et éviter la déformation ou l'aggravation, l'infection de la plaie. L'aspect infectieux vient souvent compliquer la plaie avec également le risque d'ostéite, nous amenant parfois à faire des biopsies et traiter l'os par antibiothérapie de façon assez prolongée. Donc c'est un phénomène assez complexe, le pied diabétique, et il est très important de bien éduquer les patients sur les conduites à tenir et pour éviter la survenue de plaies. Voilà. Je continue avec une question de Isa. Quel est le taux d'hémoglobine glycée normal pour un diabétique? Alors, c'est une question assez classique. Le taux d'hémoglobine glycée recommandé, généralement, doit être inférieur à 7%. Donc, vous savez que l'hémoglobine glycée, c'est une moyenne des glycémies sur 3 mois. Donc, ça nous permet d'avoir une visibilité sur l'équilibre glycémique sur 3 mois. Dans la plupart des cas, on vise une hémoglobine glycée inférieure à 7%, mais il faut savoir que cette hémoglobine glycée l'objectif peut varier selon les patients. Donc on va pas avoir le même objectif chez un patient jeune diabétique de type 1 chez lequel on va vouloir éviter des complications qui ont tendance à survenir avec des années de déséquilibre. Donc on va être particulièrement strict et sévère chez ces patients-là, puisque c'est ces années de déséquilibre qui vont être à l'origine de la complication, et on va viser une hémoglobine glycée à 6,5. Chez une personne beaucoup plus âgée, par exemple de plus de 80 ans ou ayant présenté un événement cardiovasculaire récent, un événement ischémique devant lequel il faut absolument éviter l'hypoglycémie qui va venir aggraver cette hypoglycémie, on peut avoir une hémoglobine glycée, un objectif d'hémoglobine glycée revu à la hausse à 8% par exemple pour éviter le risque hypoglycémique. Vous savez que l'hémoglobine glycée c'est une moyenne, donc ça va forcément, si l'hémoglobine glycée est très basse, le patient a priori a présenté plus de glycémie basse ou d'hypoglycémie. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on ne regarde pas que l'hémoglobine glycée pour les patients qui bénéficient de capteurs de contrôle de glycémie interstitielle. On va beaucoup regarder aussi le temps passé dans la cible et le temps en hypo, en plus de l'hémoglobine glycée qui reste une moyenne. Donc parfois on peut avoir une très bonne hémoglobine glycée chez un patient qui passe son temps à faire hyper-hypo, et pour autant on ne considère pas qu'il est bien équilibré. Donc pour revenir à l'objectif, donc comme je vous disais, ça peut être 8% chez les patients très âgés chez qui on veut éviter les hypos, ça peut être également 8% chez les patients qui viennent de présenter un événement ischémique, et puis voir pour certains patients grabataires dans un mauvais état général, très âgés, on peut même viser le 9% pour éviter les hypoglycémies, puisque ce qu'on va vouloir absolument éviter chez ces patients, ce n'est pas forcément les complications cardiovasculaires à long terme, mais plutôt les complications aiguës comme l'hypoglycémie. Alors, l'autre fille qui nous demande comment éviter l'hyperglycémie post-prandiale. Alors, vous savez que l'hyperglycémie post-prandiale dépend essentiellement de la nature de votre repas et de son index glycémique, de sa charge glycémique. Ça, c'est une notion qui est très à la mode. Mais en effet, plus vous allez manger des éléments sucrés avec un index glycémique élevé, plus la glycémie post-prandiale va être élevée. Donc, la première chose à faire pour éviter cette hyperglycémie, c'est d'abord de manger équilibré et de favoriser les sucres lents avec un index glycémique bas. Donc il n'est pas question de retirer tout sucre, hein. Il faut des sucres lents au repas chez le patient diabétique, 100 grammes je rappelle, et on va privilégier des sucres lents avec des farines plutôt complètes pour avoir un index glycémique bas. Quand on associe un sucre rapide, par exemple un fruit particulièrement mûr, il est important d'y associer des fibres aussi. Donc c'est pour ça qu'on préconise de manger plutôt le fruit que un jus de fruits, puisque ces fibres-là vont permettre de diminuer aussi l'index glycémique. C'est aussi une façon, quand on associe des fibres à des sucres, qu'ils soient lents ou rapides, ça va nous permettre de réduire l'hyperglycémie postprandiale. Et c'est pour cette raison justement aussi, en dehors de l'apport de vitamines et de minéraux, qu'on conseille d'associer toujours des légumes au repas du patient diabétique et non diabétique d'ailleurs. Pour d'autres patients, il existe des molécules, si malgré l'équilibre glycémique, l'équilibre diététique, on obtient des, le patient reste en hyperglycémie postprandiale, on a des moyens également thérapeutiques pour viser de diminuer cette hyperglycémie postprandiale, notamment les insulines rapides. Hein, vous le savez qu'elles ont une durée d'action de 3 à 4 heures et elles vont justement avoir pour objectif de diminuer cette hyperglycémie postprandiale. Dans les ADO, on va retrouver le répaglinide qui va avoir cette action courte et qui va permettre de contrôler la glycémie postprandiale. Les analogues GLP-1 aussi sont d'une grande efficacité sur ces glycémies et selon le patient, les insuffisances et les comorbidités, on va choisir l'une ou l'autre molécule, en plus bien sûr de la metformine. Voilà l'autre fille. Je continue. Madame Mauvetto qui nous pose une question concernant le Lasilix et le Forxiga. Faut-il adapter la dose de Lasilix ou arrêter le Forxiga en cas d'utilisation de Lasilix? Alors, je reviens sur ces deux molécules. Le Forxiga, vous savez que c'est un inhibiteur SGLT2 qui est disponible depuis maintenant plusieurs mois en France. Et on a aussi l'empagliflozine qui est remboursée et qui va, par le biais de la glycosurie, nous permettre de diminuer les glycémies et l'hémoglobine glyquée. Mais l'avantage important de ces nouvelles molécules, contrairement aux autres molécules dans le diabète, c'est leur protection cardiovasculaire et rénale qui va permettre une nette diminution de la mortalité, de la morbidité liée au diabète. On va également avoir une action importante chez les patients qui présentent une insuffisance cardiaque avec une diminution de 35% des hospitalisations pour les insuffisances cardiaques. Donc ces molécules sont également maintenant autorisées aux patients non diabétiques qui présentent une insuffisance cardiaque et vont devenir une référence dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc vous voyez l'intérêt importante de ces molécules. Et effectivement, étant donné que leur mode d'action passe par une action rénale avec une élimination du sucre dans les urines, donc une augmentation de la glycosurie. Quand les patients sont traités par diurétique, donc le Lasilix est un diurétique ou un autre diurétique, ce traitement peut être moins efficace donc il n'est pas question forcément de le diminuer. Il faut simplement savoir qu'en termes de glycosurie, en termes de diabète, on aura moins d'efficacité concernant ces molécules que chez un patient qui n'a pas de diurétique. En revanche, on le garde hein, pour l'effet protecteur cardiovasculaire. Précaution à prendre pour les patients qui sont sous diurétique, chez lesquels on initie ou qui sont déjà sous inhibiteurs SGLT2, c'est de faire attention à la tension artérielle, puisque le Forxiga apporte également, ou l'empagliflozine vont permettre une diminution de l'hypertension et donc peut provoquer des hypotensions chez des patients qui cumulent les antihypertenseurs. Donc il faut être prudent à vérifier que l'association des inhibiteurs SGLT2 au diurétique ne provoque pas d'hypotension. Alors, Yousfi qui nous pose la question, qui est diabétique de type 1 et qui a des hypoglycémies nocturnes. Il veut utiliser le capteur de glycémie qui a l'avantage d'avoir une alarme. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, Yousfi, l'intérêt... Alors, vous évoquez le Freestyle Libre 2. Vous savez que le Freestyle Libre 2 a l'avantage de présenter plusieurs nouveautés par rapport au Freestyle Libre 1, notamment ce système d'alarme. Donc vous avez à disposition trois alarmes. pour une alarme pour signaler les hypoglycémies, une alarme pour signaler les hyperglycémies et la dernière alarme pour signaler la perte de signal. Donc l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez pouvoir décider d'enclencher avec votre médecin prescripteur l'alarme que vous souhaitez enclencher. Donc en général, on enclenche l'alarme hypoglycémie et vous allez également pouvoir décider du seuil à partir duquel vous souhaitez que le freestyle sonne et vous alerte. Donc en général, on conseille 0,60 ou 0,70 grammes par litre. Donc effectivement, l'intérêt pour les patients sous multi-injection, sous trois injections ou sous pompe à insuline de ce freestyle est très important. Donc je rappelle en revanche que le freestyle va sonner, hein, va vous prévenir, mais pour autant il n'affiche pas le chiffre. Donc il est important de se scanner dans ces cas-là pour confirmer l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie selon les alarmes que vous avez décidé d'enclencher. Donc c'est un très bon système qui, très franchement, a apporté beaucoup aux patients diabétiques en termes de confort, mais également en termes de confort puisqu'ils n'ont plus besoin de se contrôler la glycémie capillaire autant, et en termes d'adaptation des doses d'insuline et donc d'équilibre glycémique. Donc effectivement, ce système est très intéressant et je vous encourage à le porter si besoin. Alors Moustapha qui justement nous demande notre avis concernant, qui revient sur l'hémoglobine glyquée chez un patient diabétique de type 1 qui est à 6,5 ou entre 6,5 et 7%, et donc qu'on peut considérer bien équilibré, mais pour autant il fait beaucoup d'alternance d'hypo et d'hyperglycémie au cours de la journée. Donc Moustapha, justement, on ne peut pas considérer que votre patient ou ce patient qui a une hémoglobine glyquée correcte mais qui présente de nombreuses alternances d'hypo et d'hyper est équilibré. On considère qu'il est même déséquilibré. Ça reste une moyenne, donc il ne faut pas se fier uniquement à l'hémoglobine glyquée. C'est pour ça qu'il est important de regarder les glycémies capillaires ou faire appel à ces dispositifs de lecture de glycémie continue, des capteurs de glycémie continue interstitielle que sont le Freestyle Libre 2, mais également le Dexcom G6, le capteur Sensor 3 qu'on va pouvoir ou Enlight qu'on peut associer à des pompes. Et l'avantage de ces capteurs, c'est justement de nous proposer ces fameuses nouvelles notions qu'on utilise beaucoup de variabilité, hein, le fait de varier, de passer de l'hyper à l'hypo, c'est une notion importante. Donc parfois, il vaut mieux avoir une hémoglobine glyquée peut-être un peu plus élevée, mais avec une variabilité inférieure à 35%. C'est la norme qu'on se fixe pour estimer que le patient n'est pas variable et donc plutôt équilibré. Et on va regarder aussi le temps qu'il passe dans la cible. Donc on considère qu'il est bien équilibré si le time in range, donc le temps passé dans la cible, est supérieur à 70%. Avec des hypos à moins de 4%. Le time mid-low range, donc le temps passé en hypoglycémie, est inférieur à 4%. Donc l'ensemble de ces paramètres est beaucoup plus précis qu'une simple hémoglobine glyquée. Si vous ne disposez pas de ces capteurs, il est important toujours de regarder effectivement l'hémoglobine glyquée, mais aussi les glycémies capillaires pour vraiment pouvoir bien évaluer l'équilibre du patient et estimer s'il est en hypo ou en hyper. Et bien équilibré. Peut-être on arrive à malheureusement la fin de cette séance, hein, vous inquiétez pas puisque on aura l'occasion de refaire des émissions dédiées à des questions libres où on privilégiera le direct, donc on reviendra pour répondre à vos questions. Dernière question peut-être de Suzy qui me demande: la NovoRapide doit-elle être prise 15 minutes avant le repas ou au moment du repas? Donc vous savez que la NovoRapide est une insuline ultra rapide, c'est un analogue ultra rapide qui agit donc très rapidement. On estime 15 minutes le début d'action de entre l'injection et le début de l'action de l'insuline. On recommande en général de la faire au moment du repas, c'est-à-dire que votre repas est prêt et vous êtes prêt à manger, vous êtes à table, et à ce moment-là, on recommande de faire effectivement l'injection de NovoRapide. Vous savez également que sa durée d'action est de 4 heures, mais que le pic d'action est à 2 heures. On sait que c'est à peu près le temps de la digestion avec le pic hyperglycémique qui survient à peu près à 2 heures, 1h30, 2 heures. Donc si on l'a fait à ce moment-là, on devrait, au moment du repas, on devrait pouvoir maîtriser ce pic hyperglycémique. En revanche, il n'est pas forcément recommandé de la faire trop tôt, puisque c'est le risque, vous vous exposez au risque hypoglycémique. Admettons que vous soyez à une glycémie limite avant le repas. Si vous la faites 15 minutes avant et que vous ne mangez pas de suite, après les 15 minutes, vous vous exposez à un réel risque d'hypoglycémie. Donc on conseille généralement de la faire vraiment au moment du repas et pas 15 minutes avant ou une demi-heure avant, comme certains patients font et s'exposent au risque hypoglycémique. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir posé vos questions. On reviendra, comme je vous l'ai dit, lors de prochaines séances questions libres. La semaine prochaine, nous allons dédier cette émission aux neuropathies diabétiques. Ce sera avec le docteur Benichou et le chef de service de neurologie, le docteur Sablo, qui viendront répondre à toutes vos questions sur la neuropathie et les complications neurologiques du diabète. Je réinsiste à nouveau et je compte sur vous pour voter et nous soutenir au concours d'innovation auquel nous participons pour promouvoir ces e-lives, ces émissions, notre site internet également, tous ces outils qui vont s'intégrer dans l'éducation thérapeutique et le parcours du soin du patient diabétique et qui vont être reconnus sur le plan national. Donc on compte vraiment sur vous pour voter à partir du 8 novembre. Nous vous préciserons le lien et toute la procédure sur la page Facebook et sur notre site internet pour nous soutenir. Plus vous serez nombreux à voter, plus nous pouvons espérer gagner ce concours et maintenir ces e-lives et vous aider le plus possible. À très bientôt, bon week-end à tous.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète 66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.